19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Qui aurait pu imaginer que la commune bretonne de Trémuson allait révéler des chefs-d'œuvre d'art celtique? C'est en effet au cœur d'un habitat aristocratique du 1er siècle avant notre ère que quatre sculptures représentant d'illustres personnages viennent d'être mises au jour. Trois d'entre elles sont issues d'un puits dans lequel est aussi présent un exceptionnel seau de bois et de bronze décoré de volutes toutes celtiques et destiné au fameux banquet gaulois. Nous en reparlerons dans un tout prochain numéro, mais remontons le temps pour une découverte plus ancienne. C'est au cœur du Châtillonnais, durant l'hiver 1953, que deux archéologues amateurs, Maurice Moisson et René Geoffroy, faisaient une trouvaille hors norme, celle d'une tombe princière à Vix. Y reposait pour l'éternité une princesse celtique du 6e siècle avant notre ère, appartenant à quelques sociétés barbares en lien avec les mondes hellénistiques et étrusques. Cette découverte fit bien évidemment grand bruit. Et si le mobilier de cette tombe constitue toujours un jalon important pour l'histoire de l'art de l'Antiquité, ces données ne sont plus depuis longtemps intégrées aux problématiques archéologiques. Vix, les princes et princesses de la Celtique seront ce soir au cœur du magazine d'archéologie de France Culture avec Dominique Garcia. Bonsoir.
Bonsoir Vincent.
Archéologue, préhistorien, je rappelle que vous êtes professeur des universités et président de l'INRAP. Démesuré, ostentatoire, surtout impensable, tels sont les qualificatifs qui pourraient caractériser cette tombe et sa découverte ?
Incroyable, parce qu'effectivement cette découverte a permis de replacer la Bourgogne au cœur d'un dispositif géopolitique à une période importante de l'Antiquité.
Loin des archives du sol, je vous propose une archive du son, un document lui aussi unique, le témoignage de René Geoffroy, daté de 1958, document de la RTF, désormais trésor de l'INA.
Tous les ans, nous fouillons, en principe, pendant l'automne. Fin décembre 52, nous avions pratiquement terminé. Je crois que c'est le 28 ou le 29 décembre que nous avons arrêté le chantier sur la montagne même, le chantier 5. Et il nous restait un petit peu d'argent, quelques crédits, très peu. Et Moisson, mon chef de chantier, avait repéré, au mois d'octobre, dans la plaine, non loin de la rivière, dans un champ des pierres qui, de par leur nature géologique, n'avaient rien à faire dans cet endroit. Il m'avait signalé la chose, je l'avais vu avec lui, il s'agissait de moellons, de calcaire dont l'affleurement géologique se situe à plus d'un kilomètre de là. Et nous avons pensé qu'il s'agissait tout simplement de vestiges, de substructions gallo-romaines, il y en a beaucoup dans la région, et c'est pour en avoir le cœur net, pour faire une petite confirmation et utiliser les quelques milliers de francs qui restaient, que le 3 janvier, nous avons mis la pioche sur le site. Le lendemain matin, j'étais en train de faire ma toilette avant d'aller me rendre au collège pour faire mes cours de philosophie, lorsque la sonnette a retenti. Je me suis dit quel est ce fâcheux matutinal. Et c'était Moisson qui venait en me disant « J'arrive parce que vous n'aviez pas, il n'y avait pas 5 minutes que vous aviez quitté le chantier que j'ai trouvé quelque chose. » Et je lui dis « Quoi donc ?» Mais il me dit « Je ne sais pas, c'est quelque chose en bronze énorme, ça se présente comme un bas de mulet, comme... » Alors je me suis dit « Il s'agit sûrement d'un récipient de bronze, alors c'est peut-être une situle. » Je lui ai dit « Est-ce que ça ne serait pas comme une sorte de lessiveuse, ou c'est peut-être un ciste à cordon, ou comme un soie ?»« Non, 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 c'est quelque chose de très massif. » Et d'ailleurs, il faisait nuit, j'ai remis un sac dessus, j'ai remis les pierres en place, et j'ai tout laissé, je vous attends. » En arrivant, en enlevant les cailloux, nous sommes trouvés en présence d'une anse énorme, gigantesque, se terminant par un buste de femme qui émergeait des terres plus ou moins recouvertes de neige. Et vraiment, là, ça a été je peux le dire, une émotion que peu d'archéologues ont eu l'occasion d'avoir dans leur vie. Nous avons fouillé le jeudi et le vendredi, et ce n'est que le vendredi soir que nous avons pu retirer le cratère, car il s'agissait d'un énorme récipient de bronze. La panse était écrasée, le couvercle était défoncé, le pied était intact, mais séparé de la cuve. Et nous avons extrait le cratère, et on a laissé croire volontairement
que ça s'arrêtait là.
Nous avions eu des indices qui indiquaient une tombe, et vraisemblablement une tombe à char, mais la presse, les badauds, il fallait les écarter pour empêcher tout risque d'éboulement, le temps se ramollissait, la terre qui était gelée commençait à dégeler, nous étions très embêtés, et on a vu que pour faire une fouille vraiment impeccable, les conditions de trouvaille étaient difficiles, puisque la tombe était envahie par l'eau, il fallait une pompe, on a été chercher celle des pompiers d'un village voisin, elle ne marchait pas, c'était très compliqué, nous avons extrait le cratère et nous nous sommes arrêtés. Et nous avons pu repérer avec certitude et précision l'emplacement exact de la chambre funéraire. Parce que voici ce qui s'est passé pour le cas du tumulus de Vix, c'est que exceptionnellement, et contrairement à ce que l'on savait, le mobilier funéraire et le corps n'ont pas été déposés sur le sol, mais dans une chambre sépulcrale, creusée dans le sable, il s'agit des alluvions, des graviers de la Seine, creusés dans le sable. On a fait une chambre cubique d'à peu près 3 mètres de côté ou d'arête. On a mis à chaque coin des poteaux et on a mis des planches pour maintenir ce sol relativement meuble. Et une fois qu'on a fait ce gros caisson, on a déposé le corps, le mobilier funéraire, on a fait un toit, comme si on fermait une caisse, et là-dessus on a construit le tumulus lui-même où on a empilé les cailloux. Et il y a eu évidemment une masse de charge considérable avec ses 4 ou 5 mètres d'épaisseur de cailloux.
Mais alors tout était effondré, évidemment.
Et au bout d'un temps relativement court, peut-être 50 ans, peut-être 100 ans seulement, après l'ensevelissement, eh bien, sous l'effet de l'humidité, de la pourriture du bois et du poids, toute la masse de pierre s'est effondrée dans le tumulus, abîmant les objets, les écrasant, mais en même temps les protégeant. On avait, au moment de l'établissement de la sépulture, on a déposé les éléments d'un char, c'est-à-dire les 4 roues préalablement démontées, qu'on a mises le long d'une face, le long d'un des côtés de la tombe. Et la caisse du char a été placée au centre de la chambre, et cette caisse renfermait le corps d'une femme d'une trentaine d'années, femme qui avait été enterrée avec tous ses bijoux, paraît sûrement de ses plus beaux atours, mais nous n'avons conservé que les éléments métalliques. Donc elle avait sur la tête un diadème ou un serre-tête d'or de 480 grammes, qui est une très belle pièce d'orfèvrerie. Elle avait des colliers de perles d'ambre, des bracelets de lignite, des bracelets de bronze, aux chevilles des anneaux de bronze, un grand torque ou collier rigide, et un certain nombre de petits colifichets. Et puis, dans un angle de la tombe, on avait déposé cet énorme cratère, c'était dans l'angle nord-ouest, cet énorme cratère de bronze. Et sur le couvercle du cratère, on avait mis, au moment de l'inhumation, des mains pieuses avaient déposé 2 coupes en céramique attique, faites à Athènes, l'une vraisemblablement fabriquée vers 515, l'autre vers 530 avant Jésus-Christ, et puis un troisième récipient, une coupe en argent avec un ombilique central en or, qu'il est difficile de dater. Et puis il y a eu aussi, mais là nous ne l'avons pas retrouvé en place, une cruche en bronze. Vous voyez, ça constituait en quelque sorte une manière de service à boire avec la cruche, la fiale, les coupes. Et estimant que ce n'était pas encore suffisant, Le long de la paroi ouest, il y avait 3 bassins de bronze, 3 grandes cuvettes de bronze de travail étrusque. Pourquoi tant de beaux objets, tant d'objets précieux, rares ou énormes, gigantesques, sont-ils venus échouer à Vix? Évidemment, nous n'étions pas, on ne peut pas dire que la surprise a été totale, car la Gorgette et moi-même avions déjà trouvé dans l'oppidum même, sur la montagne, de très nombreux tessons de céramique grecque, représentant au moins 50 de vases. Et c'était un des intérêts du gisement. Il y avait donc là, sur le mont La Soie, un apport d'objets helléniques considérables.
Mais dites-moi, mais tout de même, ceci est une tombe de femme. Et d'après ce que nous savions des auteurs antiques, il est vrai, c'était des adversaires, les Romains. Ça prouve que tout de même la femme tenait alors, à cette époque, un rôle considérable.
Évidemment, sur les 3 sépultures princières de Vix, car les 2 de Sainte-Colombe doivent être attachées aussi, il y en a 2 qui sont des sépultures féminines.
Qu'est-ce que vous en concluez?
Vous marquez ce terme de sépulture princière, je l'ai à maintes fois dit, n'implique pas dans mon idée...
C'est princier par la valeur,
oui,
par l'importance,
ça veut dire opulent.
Par la beauté opulente.
Est-ce une princesse Est-ce une prêtresse? On n'en sait absolument rien et on ne le saura sans doute jamais. Mais la seule chose que l'on sait, c'est que dans l'organisation sociale des Gaulois de cette époque-là, eh bien, certaines femmes
jouaient un rôle
et avaient une fonction sociale considérable.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Dominique Garcia, l'élément central de cette découverte, c'est bien entendu son cratère, un gigantesque cratère arrivé de Grande-Grèce, Tarente exactement. Mais pourquoi Vix serait-il tombé du camion, de la charrette à défaut?
Alors non, il n'est pas arrivé par hasard dans ce secteur-là. Vix se trouve dans un réseau de sites que l'on appelle les principautés celtiques, un espace qui va du Berry jusqu'au centre de la Moravie et qui, en fin de compte, occupe un espace d'interfluve près des naissances, des sources de la Seine, du Danube, de la Saône et de la Loire, et où donc des agglomérations importantes vont capter les richesses et servir de lien entre les sociétés méditerranéennes et les sociétés du nord de l'Europe.
Comment arrive-t-il sur le terrain? Ce cratère, il aurait dû passer les Alpes?
Le parcours du cratère a fait l'objet de nombreux débats, certains spécialistes évoquant un passage par les cols alpins en provenance notamment de la vallée du Pô, d'autres imaginent le passage par la vallée du Rhône. Aujourd'hui, l'association du mobilier fait plutôt penser, bien entendu, à une origine méditerranéenne via Massalia. Et donc, en plus, au-delà du cratère, mais nous allons l'évoquer, il y a l'ensemble du mobilier, et notamment du mobilier méditerranéen, grec, étrusque, qui accompagnait ce vase.
Donc Vix serait une sorte de maillon dans le commerce entre monde barbare et cité méditerranéenne?
Voilà, Vix est une sorte d'espace commercial, d'échange, un espace de rupture de charge entre le monde méditerranéen, on est là dans le prolongement de la vallée du Rhône et de la vallée de la Saône, et ensuite les vallées qui vont se tourner vers l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord. Donc en fin de compte, une sorte de hub commercial entre le monde méditerranéen et le monde celtique.
Vix, ce n'est pas n'importe quoi. René Geoffroy avait tenté quelques fouilles sur le mont qui domine donc cette fameuse tombe, sans grand résultat. À partir de 1991, de nouvelles recherches sont engagées. Ce que l'on trouve, c'est un vaste site fortifié.
Voilà, les travaux menés par Bruno Schomm et ses collègues européens ont permis de redonner une place importante à Vix et surtout de redonner un contexte historique et archéologique à cette découverte. Au-delà du cratère, il y a bien entendu un dépôt funéraire. Au-delà du dépôt funéraire, il y a une tombe sur son territoire et sur le territoire de cette principauté celtique, il y a bien entendu un site majeur, le mont La Soie, qui des années 550 à 450 a eu un rôle important dans cette géopolitique entre la Méditerranée et le nord de l'Europe.
Et alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que sur ce mont Lassois, on découvre une sorte de gigantesque bâtiment, un bâtiment à abside. Doit-on y voir une sorte d'édifice palatial, le palais de la princesse ?
En tout cas, on a un bâtiment qui dépasse de loin les dimensions communes pour une habitation, donc un bâtiment public ou effectivement le palais de la princesse ou des aristocrates qui vivaient sur le site. Et en plus, ce bâtiment est inséré dans une série d'enclos, eux-mêmes calés par des voies de circulation, le tout protégé par une fortification hors norme, peut-être même qui conduit jusqu'à la Seine avec un espace portuaire.
On est là aussi dans l'ostentatoire ?
On est là dans quelque chose d'évidemment ostentatoire, avec un rempart hors du commun, les courtines, les fossés, un type d'aménagement d'inspiration méditerranéenne, quand on voit la planification, les types d'architecture pour ces périodes-là. Donc quelque chose d'impressionnant, de rapide, qui effectivement est le reflet d'une certaine puissance de moyens et d'influence étrangère.
Cette maison abside, elle ferait plusieurs centaines de mètres carrés. Il faut y voir une sorte de projet celte ou un projet venu de Grèce ?
Alors, les techniques de construction de cette demeure, qui fait environ 35 mètres sur 21, sont des plans, un plat à double abside ou à simple abside, sont connus dans le monde celtique, dans le monde indigène, depuis le bronze final, et puis même depuis le néolithique. Donc, c'est pas tant la forme générale que la grandeur, l'ampleur et le mobilier qui accompagnaient ce bâtiment. Voilà, on est dans un type de construction proto-historique, une architecture qu'on pourrait retrouver autant dans le monde méditerranéen, dans le monde celtique, mais qui ici, en revanche, reflète une puissance hors norme.
Peut-on parler d'urbanisation ? L'urbanisation bien avant l'heure, puisque celle-ci émerge en Gaule autour du IIe siècle avant notre ère.
Oui, on a là, la ville est une idée neuve durant le premier âge du fer, y compris en Méditerranée. Et dans le cas de ce site de Vix, on a réellement, effectivement, les premières villes du monde celtique, un phénomène qui sera relativement court, un siècle et demi. On a en tête Lauenburg, Vix, mais il faudrait ajouter également Bourges et d'autres sites de cette importance. Donc des villes qui apparaissent, puisqu'on a vraiment un lien entre l'espace urbain et l'espace agricole, des activités notamment artisanales qui ont bien été démontrées sur le site de Vix, donc une organisation effectivement de micro-états pour cette période de la période archaïque classique ou le premier âge du fer.
D'où la fameuse appellation « prince et princesse de la Celtique ».
Voilà, Prince et Princesse de la Celtique, l'ouvrage de notre collègue Patrice Brun, un concept emprunté aux chercheurs allemands. On a là effectivement des princes, des princesses, des potentats locaux, une élite qui surgit, et pourquoi pas donc conserver par tradition ce terme de prince ou de princesse.
Vix, ce serait aussi un port ?
Alors, de toute évidence, il y a un lien étroit entre l'agglomération, sa richesse, sa puissance et la voie de communication que constitue la Seine. D'ailleurs, il suffit d'imaginer que 60 kilomètres après, plus à Naval, on a le site de Lavaux et probablement dans la région de Troyes, une agglomération tout aussi importante, même si on n'en connaît pas les détails. Donc le rôle de la Seine est évident, comme tout à l'heure j'évoquais le rôle de la Saône, le rôle de la Loire et du Danube, bien entendu, quand on a en tête Lauenburg. Imaginer une navigation sur ces fleuves peut paraître difficile en toute saison, mais elle était parfois sans doute réalisée dans des périodes un peu plus courtes. Et puis récemment, donc, un espace aménagé en bordure du fleuve a été trouvé dans le cadre du PCR conduit par Bruno Chaume. Et donc, on a probablement une installation portuaire en lien avec les fortifications et peut-être les fossés tout autour du site.
C'est-à-dire que du mobilier de Grèce ou d'Étrurie pouvait arriver, mais qu'est-ce qui pouvait en repartir ? Ce même mobilier d'ailleurs ?
Alors, pouvait partir éventuellement du mobilier importé du monde méditerranéen et qui trouvait là un point de rupture de charge à Vix, une zone d'échange, un endroit où peut-être les populations locales réalisaient une plus-value importante, mais on peut surtout imaginer ces sites comme un site qui captait des ressources d'un territoire plus large. On pensera à l'ambre de la Baltique, à l'étain des îles britanniques, de la Bretagne, voire du Morvan, aux ressources en céréales. On a très probablement un très grand grenier sur le site de Vix. Donc il y a quand même une zone économique. Ce sont avant tout des espaces économiques, ces cités princières. Et donc la zone portuaire et les zones de stockage avaient du sens.
Tout est lié, bien sûr, au commerce, mais quel est aujourd'hui le modèle proposé par les archéologues pour expliquer toutes ces principautés du Danube à la Seine?
Alors, il faut imaginer, à partir du 7e siècle, une mise en contact entre deux espaces culturels, économiques, politiques bien différents. D'un côté, les sociétés méditerranéennes, en premier lieu, les cités étrusques et les cités grecques, et ensuite, dans le nord de l'Europe, ces populations celtiques. Et en fin de compte, un espace de consommation qui est le monde méditerranéen, qui avait besoin d'ambre, qui avait besoin de céréales, qui avait besoin d'esclaves, qui avait besoin d'étain. Donc un espace de consommation. Les cités méditerranéennes consommaient beaucoup de matières premières, des matières de première nécessité, ce que les Grecs appelaient le biotos. Et ensuite, on a des zones de production qui, elles, bien entendu, se trouvent dans des zones périphériques. J'évoquais les îles britanniques, on évoque souvent la Baltique, et puis toutes les zones céréalières. Donc un espace de consommation, un espace de captation, ces zones de production, et puis un espace où on réalise la plus-value, où émergent ces états, donc un hub économique entre le sud et le nord. Et là, c'est là où se réalise la plus-value, c'est là où des élites se développent, c'est là où probablement les Méditerranéens renforcent leur pouvoir par des cadeaux, par des techniques, par des appuis, notamment dans l'art de la guerre ou l'art de la construction. Donc on a l'émergence de populations forte dans cette zone d'interface.
Patrice Brun, il voyait les trois cercles brodéliens, bien sûr le premier cercle, les cités méditerranéennes, le deuxième, les Celtes, et puis le troisième, les barbares qui ne sont jamais en contact donc avec ces cités méditerranéennes. C'est à peu près ce que vous dites.
Oui, bien entendu, ils sont nés dans un véritable espace de connexion, et donc que ça soit le modèle de Brodel largement diffusé par Patrice Brun, ou en fin de compte une mise en réseau tout simplement de ces sites en Europe. Voilà, l'espace, c'est sans doute le moment où l'espace euro-méditerranéen naît. En fin de compte, on a une connexion des sites entre un espace méditerranéen et l'espace celtique, et puis on se trouve là dans un espace qui va bénéficier dans le secteur de Vix de sa situation géographique et à un rôle géopolitique fort.
Qu'est-ce que pouvait en penser René Geoffroy en 1950?
Alors, si on écoute les archives de Geoffroy, dès le départ, il avait quand même pointé le rôle stratégique. Il travaillait dans cette région, il y était attaché. Et il voyait l'importance du site de hauteur. Et il cherchait la nécropole. Il a été surpris, mais rapidement, il a analysé quand même les découvertes et les a insérées. Peut-être ce que Geoffroy avait négligé, c'est une approche plus large des sociétés celtiques, mais qui à l'époque était moins bien documentée. Et donc, notamment dans ses différents propos qu'il a pu évoquer, il imagine la fin d'un monde chassé par un nouveau, c'est-à-dire les Hachetatiens qui ensuite seraient chassés par les populations laténiennes. Donc voilà, on était encore dans des périodes où on imaginait des migrations violentes, un peuple en chassant un autre.
Ce cratère de Vix, c'est un objet unique, c'est une pièce absolument exceptionnelle, c'est une pièce bien trop grosse pour être utilisée par des Grecs, même en Italie du Sud. Pourquoi ce vase ?
Pourquoi la réponse exacte, on ne l'aura sans doute jamais, mais ce que l'on peut dire effectivement, c'est qu'elle est hors norme. Comme les remparts de Vix sont hors norme, comme la maison principale de Vix est hors norme, mais qui sont à l'échelle, en fin de compte, de cette vision de ces mondes celtiques, il fallait appuyer, il fallait convaincre. On est là dans un cadeau sans doute diplomatique qui était fait pour appuyer le pouvoir de l'élite locale, qui permettait le cratère. Avant tout, c'est un vase dans lequel on mettait une boisson, probablement du vin associé avec de l'eau, et ça permettait, lors de grandes fêtes, de remercier les personnes qui avaient travaillé peut-être à la construction du rempart, peut-être à la mise en culture des terres. En tout cas, on est là dans quelque chose qui doit être vu comme un système. Le chaudron à Lavaux, le cratère de Vix, ce sont des pièces d'un service à boire, et ce service à boire n'était pas fait pour être enfermé dans la tombe, mais a bien été utilisé à différentes reprises pour justement associer le prince ou la princesse avec l'ensemble des populations qui vivaient sur le territoire.
C'est le principe du banquet antique que l'on connaît en Grèce, en Italie, voilà. Mais aussi chez les Gaulois.
Oui, c'est le principe du banquet, c'est le principe de la grande fête qui peut-être permettait de remercier ou d'assujettir les populations. Et le pouvoir était tenu par celui qui était capable d'organiser la fête, qui était capable d'avoir le vin et qui était capable de le distribuer avec un rituel probablement extrêmement important.
À part ça, il n'y a pas que le cratère. C'est d'une richesse hors norme.
Alors bien entendu, le cratère, c'est un élément du service à boire, avec coupes attiques, avec des vases étrusques, avec des plats, et bien entendu, les éléments qui ornaient la princesse, le torcanor, les bracelets, enfin tous ces documents visibles au musée du Châtillonnet, et complétés sans doute demain par les fouilles réalisées par Bastien Dubuis.
Que pouvaient comprendre les Celtes des illustrations mythologiques qui figuraient sur les objets issus de Grèce ou d'Étrurie, notamment bien sûr le cratère ?
Alors imaginez, comme on l'a fait parfois longtemps, que les Celtes ne comprenaient pas, et sans doute la meilleure façon nous-mêmes de ne pas comprendre. On a souvent imaginé ces populations comme étant totalement imperméables aux mythes venant de la Méditerranée, aux histoires racontées. Or, c'est peut-être les histoires, les mythes qui ont le plus bougé, qui ont le plus voyagé, et peut-être justement les mythes et les histoires qui permettaient de cimenter, de rapprocher les populations. Donc je crois que des Celtes qui voyaient défiler des hommes en armes sur le cratère de Vis, qui voyaient des chevaux, qui voyaient des chars, ben, ils arrivaient bien entendu à lire ces éléments. Et la Gorgone, à la limite, elle était tout aussi effrayante pour un Celte qu'elle pouvait l'être pour un Grec. Donc je crois que voilà, associer, imaginer ou prendre en compte les images et dire que ces images étaient lues, comprises par les populations celtiques, voire interprétées à leur façon, et devait les impressionner et les accompagner, est à mon avis quelque chose qu'il faut de plus en plus faire. Ne pas rendre plus primitif ou plus archaïque ces populations qu'on l'a imaginé. On n'est pas là dans un espace qui est totalement excentré, vu que justement, il se trouve au cœur de cet espace euro-méditerranéen.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Claude Nieur, et avec la collaboration de Sandrine Chaperon, qui avec Amélie Briand-Lejeune, documentaliste multimédia à l'INA, a exhumé une très belle archive de 1958, celle de René Geoffroy, dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident de la chaîne RTF France 3 nationale. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, départ pour Vix et le terrain.